Bienvenue dans l'émission Pourquoi pas des philosophes. Aujourd'hui, nous avons invité Jean-Christophe Angot, maître de conférence en philosophie à l'ENS de Lyon. Jean-Christophe Angot, vous êtes spécialiste de philosophie allemande, de Kant à Nietzsche. Vous vous intéressez particulièrement au jeune hegelianisme, à Bakounine et à la pensée anarchiste. Merci d'avoir accepté de discuter avec nous.
Merci de votre accueil.
Comment avez-vous rencontré la philosophie ?
Comme beaucoup de gens, je pense que je l'ai rencontré par l'enseignement, mais d'une manière un peu différée, parce que je l'ai rencontré en terminale, hein, comme tout le monde, mais avec, je pense comme beaucoup d'élèves en terminale, des attentes qui n'étaient pas forcément conformes au contenu de la discipline. Et j'ai pas accroché directement à la philosophie. J'ai vraiment accroché en fait qu'à partir du moment où j'étais déjà étudiant spécialisé en philosophie, en fait, bizarrement. C'est-à-dire, j'ai d'abord été étudiant en philosophie avant de prendre goût à la philosophie, d'une certaine manière. C'est un parcours fait un peu particulier.
Ouais. Et comment du coup en êtes-vous et pourquoi surtout en faire votre métier ?
J'ai fait une cagne à Paris, et c'est là donc notamment donc moi j'ai eu un professeur qui m'a pas mal marqué, donc qui comme tous les professeurs avait ses qualités, ses défauts, qui s'appelait Pierre Raymond, qui était prof de cagne au lycée Fénelon. Je crois que c'est vraiment lui qui m'a donné le goût de la philosophie. Ensuite, alors pourquoi en faire un métier, c'est une question qui s'est pas posée, comment dire, in abstracto, hein. Je me suis pas posé un jour la question qu'est-ce que je voudrais faire comme métier. Tiens, je vais faire prof de philo. D'une certaine manière, c'est aussi le cours de mes études qui m'a amené à ça. Le point peut-être décisif étant que au moins négativement, c'est le métier qui me déplaisait le moins. Voilà, disons. Mais c'est pas vraiment décidé en termes de choix professionnel, on va dire. J'avais pas forcément d'idées préconçues sur ce que j'avais envie de faire professionnellement. J'avais éventuellement beaucoup d'idées sur ce que je ne voulais pas faire professionnellement. D'une certaine manière, ce que j'ai pu rencontrer dans la philosophie, et puis ensuite ce que ça donne professionnellement, m'a convenu par rapport, disons, aussi au genre de vie que j'avais envie de mener. C'est peut-être plutôt en ces termes-là que ça s'est posé, c'est-à-dire une vie, on va dire, pour parler comme Spinoza, le plus possible sous la conduite de la raison. Et professionnellement aussi une vie, en particulier lorsqu'on est enseignant-chercheur, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais qui est une vie qui comporte, à mon avis, de grands espaces de liberté, même si on n'en fait pas toujours suffisamment usage, mais c'est, disons, la rencontre de ces deux aspirations. Voilà.
Vous parlez de Spinoza, quelle est la première lecture philosophique qui vous a marqué ?
Ça, c'est très très difficile à dire. C'est pas forcément Spinoza d'ailleurs, hein, mais une des lectures qui m'a sans doute le plus marqué, c'est justement, alors, par rapport à Spinoza, ça va sans doute paraître un peu étonnant, c'est celle de Descartes, en fait. C'est un des premiers penseurs auxquels je me sois vraiment vraiment attaché, et en particulier au discours de la méthode, en fait. C'est un des textes qui a beaucoup compté pour moi, en particulier en raison de l'inscription de la philosophie dans une biographie, parce qu'on oublie souvent que le discours de la méthode, c'est aussi un texte autobiographique où l'engagement philosophique, hein, repose sur un moment de décision individuelle aussi, de changer de vie d'une certaine manière aussi.
Vous dites que la philosophie s'incarne dans des individus. Y a-t-il une rencontre avec un philosophe qui vous a particulièrement marqué ?
Alors, il y en a plusieurs, mais alors ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on rencontrait la philosophie dans l'enseignement, et donc bien souvent on rencontre les philosophes sous la figure de grands professeurs. Donc je parlais de Pierre Raymond tout à l'heure, mais il y en a d'autres, hein, qui ont beaucoup compté comme enseignants, hein. Alors, dans cette école, il y avait notamment Bernard Besnier, ou quelqu'un comme Pierre-François Moreau, qui est encore enseignant ici. Ce sont des rencontres de personnalités singulières qui sont extrêmement importante. J'ai souvenir aussi, hein, lorsque j'étais étudiant, hein, qu'à l'époque, alors Gilles Deleuze était encore en vie, et qu'il y avait notamment l'abécédaire de Gilles Deleuze, hein, qui passait à la télévision sur Arte, si je me rappelle bien. Et c'était, on avait vraiment à l'époque, hein, on suivait tout ça, je me rappelle, en cagne, avec beaucoup de passion, l'abécédaire de Gilles Deleuze, parce que précisément, on le voyait philosopher sur des objets qui étaient pas forcément des objets élevés toujours à la dignité d'objets philosophiques. Et on avait l'impression d'entendre une parole de philosophe. C'était, c'était des rencontres qu'on comptait, moi, même si je suis pas du tout, je suis pas du tout deleuzien, mais ça fait partie de personnalités philosophiques qui ont à mon avis beaucoup compté pour moi, puis sans doute pour d'autres aussi à cette époque-là. Donc je parle d'une époque vers le milieu des années 90, milieu fin des années 90.
Et alors, est-ce que vous savez ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas été professeur de philosophie ?
Ben non, j'en sais rien du tout. J'en sais vraiment rien du tout. C'est extrêmement difficile à dire. Hein. Il y a plein de choses que j'aimais faire. Hein. J'aimais bien jouer de la musique, j'aimais bien écrire, etc. Donc il y a tout un tas d'activités sans doute que j'aurais pu faire. D'autres métiers, j'en sais rien du tout. Hein. C'est la difficulté aussi des types de parcours qu'on a, en particulier hein, les normaliens. Je vais pas vous apprendre ça. C'est qu'on est d'une certaine manière aiguillé relativement tôt, avant que se pose une manière concrète, comme ça peut se poser pour d'autres personnes dans d'autres secteurs d'activité, la question du choix du métier ou du non-choix d'ailleurs du métier. Donc j'avais pas, disons, j'étais d'une part pas forcément destiné à quelque chose socialement, et d'autre part je me posais pas la question d'une orientation professionnelle. Je n'avais pas envie de déterminer mon avenir en fonction du travail. Voilà.
I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late?
Est-ce que vous ressentez un écart entre la philosophie comme métier et comme pratique ? Ou alors est-ce que vous avez le sentiment que le lien est toujours évident entre la philosophie politique et l'action elle-même ?
Ça n'a rien d'évident, parce que je crois que c'est Pierre Hadot qui disait qu'il n'y a plus que des professeurs de philosophie, il n'y a plus de philosophes. Hein. C'est peut-être vrai. C'est vrai que l'enseignement de la philosophie consiste essentiellement, en tout cas en France aujourd'hui, à enseigner l'histoire de la philosophie. Donc, fait de nous plutôt des historiens des idées que davantage des philosophes qui sont censés incarner sur le modèle hein, du sage de la philosophie antique, qui sont censés incarner dans leur genre de vie une philosophie en particulier. Cela étant, bien évidemment, nos intérêts pour telle ou telle période de l'histoire de la philosophie, pour tel ou tel courant philosophique, pour telle ou telle figure philosophique ou paraphilosophique, est jamais étrangère à nos... disons, la conception de ce que doivent être nos vies. Alors, dans mon cas, c'est vrai que lorsque je me suis intéressé en particulier au texte de Bakounine qui s'appelle La réaction d'Allemagne, dans lequel Bakounine thématise son divorce avec la philosophie, c'est vrai que ça a coïncidé avec une période où moi-même, je m'interrogeais énormément sur mon engagement philosophique. Pour diverses raisons, mais notamment pour des raisons politiques. Alors, à l'époque, je venais juste d'avoir l'agrégation, je cherchais à travailler sur autre chose pour finir un peu mon cursus, et puis donc j'étais retombé d'une certaine manière sur Bakounine par différentes voies. Et c'était aussi une période d'intense engagement politique. Alors, c'était à l'époque des mouvements altermondialistes au début des années 2000, et c'est une époque aussi où donc j'ai eu tendance à beaucoup interroger le statut du discours philosophique, notamment dans la société, qui s'apparentait bien souvent ou bien à un discours quasiment, comment dire, disons, le statut du philosophe socialement était assez analogue à celui du prêtre ou du psychanalyste par moment, je trouvais, ou bien dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, s'apparentait à un discours de, disons, de légitimation de l'ordre existant. Et il me semblait assez difficile de maintenir institutionnellement, de se maintenir institutionnellement les deux pieds dans la philosophie, étant donné le rôle social, disons, qui est que la philosophie acceptait de jouer à travers ses représentants. Voilà. C'est une question, d'une certaine manière, que j'ai pas complètement résolue, hein, qu'on a, enfin, continue à me situer à la lisière, d'une certaine manière, de la philosophie, hein, indépendamment de l'intérêt bien réel que je trouve aux études philosophiques, à l'enseignement de la philosophie. Ça, il me semble que c'est un enseignement qui, à bien des égards, est très, très formateur, etc. Cela étant, me définir moi-même comme un philosophe, je sais pas si je le ferais, par exemple. Voilà. Enseignant de philosophie, ça oui, hein, statutairement, c'est ce que je suis. Suis-je un philosophe? Alors, ou alors je le suis par d'autres biais, éventuellement. Peut-être précisément parce que la philosophie, dans son sens le plus ancien, désigne une mise en forme théorique d'un certain genre de vie. Et effectivement, il y a en tout cas, j'essaye dans ma propre vie d'être en accord avec ce qu'on pourrait considérer comme mes options philosophiques. Je sais pas, mais peut-être que je mettrai philosophique avec des guillemets.
Vous parliez tout à l'heure de l'aura de Deleuze dans les années 90, qui était un penseur écouté, qui avait une certaine résonance dans la société. Et justement, qu'est-ce que vous pensez du rôle de la philosophie dans la société ?
Pour ma part, j'ai jamais considéré, disons, la philosophie comme comme une discipline en soi, on va dire, qui serait indépendante de ses réalisations institutionnelles, sociales, et de ses différentes modalités discursives. Et il me semble que de ce point de vue-là, il y a pas un rôle unique de la philosophie dans la société. Et enfin. Très malheureusement, ce que je disais tout à l'heure à propos des doutes que j'avais eus, qu'on continue constamment à avoir sur le sens de l'engagement philosophique, bien souvent la philosophie joue pas un rôle forcément très 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 brillant, hein, qui est alors en particulier en France parce qu'en France il y a la figure historique de l'intellectuel qui est censé s'exprimer sur tout un tas de sujets, hein, l'intellectuel, disons, à la Sartre, on va dire, hein, pas l'intellectuel spécifique comme dirait Foucault ou Deleuze. Il me semble que ce statut est extrêmement, extrêmement ambigu. C'est-à-dire, il y a d'un côté une réalité massive de la philosophie qui est tout simplement l'enseignement de la philosophie. Il ne faut pas oublier que toutes les personnes qui viennent en terminale sont confrontées à la philosophie et en ont d'une certaine manière toujours une expérience marquante, quelle qu'elle soit, même si c'est une expérience de rejet, même si ça aboutit à une réaction de rejet, etc. Ça reste une expérience marquante, une expérience de désorientation, une expérience de remise en cause d'un certain nombre d'éléments du sens commun et donc aussi de combat contre les préjugés. Et c'est absolument pas anodin. Et puis il y a la réalité institutionnelle de la philosophie, alors qui passe par le statut de l'intellectuel, mais qui passe aussi par sa réalité dans l'enseignement supérieur. Alors, c'est une réalité qui est extrêmement éclatée, finalement, la réalité de la philosophie aujourd'hui.
Et dans votre cas particulièrement, parce que je sais que vous avez un blog, par exemple, le blog, quelle interface c'est pour la philosophie par rapport à la société ?
Alors, lorsque j'avais... c'est un blog que j'ai créé, en fait, sollicité par un éditeur libertaire lyonnais, hein, qui est l'Atelier de création libertaire, parce que j'avais publié un livre chez eux. Il m'avait dit, oh, tiens, pourquoi est-ce que tu ferais pas un blog sur Bakounine ? Et puis, donc, moi, je l'avais signalé à mon laboratoire de recherche, hein, comme étant une de mes activités. Et ils avaient choisi d'intituler ça, je crois, sur la page du laboratoire, un carnet de recherche. C'est un peu ça, finalement. Voilà. C'est un peu un carnet de recherche, c'est-à-dire c'est un outil dans lequel je rends compte éventuellement de mes activités, ou l'actualité de la recherche sur Bakounine, ou encore d'aspects très ponctuels, éventuellement divertissants, hein, qui ont partie liée à l'œuvre de cet auteur. Donc, je le conçois pas forcément comme quelque chose qui aurait partie liée à de la philosophie, pour le coup. C'est du off de mes travaux de recherche, on va dire, voilà, qui sont pas forcément toujours des travaux spécifiquement philosophiques, qui ont une composante, on va dire, d'histoire des idées, qui ont partie liée à l'histoire sociale aussi, éventuellement.
Bon, maintenant, je vais vous poser une question brutale que vous devez accepter, c'est le principe de l'émission. En quoi est-ce que vous vivez comme un philosophe ?
Dans, en tout cas, tel que j'appréhende mon parcours personnel, j'ai jamais considéré, disons, que c'était la philosophie qui déterminait la manière dont je vivais. C'est plutôt le type de vie que j'avais envie de mener, et une vie en particulier, disons, marquée par le plus de liberté possible, qui avait déterminé davantage mon engagement philosophique. Donc, c'est plutôt en quoi est-ce que le philosophe que vous êtes est-ce que la philosophie correspond à la vie que vous menez, en fait. C'est presque la question inverse qu'il faudrait poser. Et pour le coup, je pense qu'il n'y a pas simplement les professionnels de la philosophie qui font cette expérience d'une vie philosophique. Il y a aussi, d'une certaine manière, toutes les personnes qui cherchent à incarner dans leur existence leur conviction. Alors, il me semble que c'est un des intérêts, d'ailleurs, des mouvements anarchistes dans l'histoire, c'est que les militants anarchistes ne sont jamais rapportés, disons, à leur conviction comme à un simple contenu doctrinal qu'il s'agirait de propager, mais on cherchait toujours à les vivre, à vivre leurs convictions, à vivre libre, à donner des prénoms bizarres à leurs enfants, à vivre dans des... Vous avez tout un tas de... Vous avez un très beau livre d'un anarchiste argentin qui s'appelle Christian Ferrer, hein, qui s'appelle Tête d'orage, je crois, et il parle de vie réfractaire à propos des biographies d'anarchistes qu'il compare à des vies de saints. Hein. Alors, je lui laisse la responsabilité de ce qualificatif, mais il y a quelque chose de cet ordre là, c'est-à-dire une dimension d'exemplarité de la vie, non pas au sens moral, mais au sens où la vie devient un exemple de ce qu'il est possible de vivre autrement.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee.
Vous êtes spécialiste de philosophie politique et particulièrement de Bakounine. Vous avez publié aussi des articles sur Marx et sur les jeunes hégéliens. Selon vous, est-ce que ce sont donc vos orientations politiques qui déterminent vos choix théoriques ou le contraire ?
Alors la politique, elle est toujours investie de théorie. Donc il y a, voilà, c'est toujours difficile de répondre comme ça d'une manière très tranchée. Ce qui est certain, c'est que le type d'intérêt que j'avais pour un certain type de théorie politique, hein, qui est l'anarchisme, d'ailleurs dans plusieurs de ces variantes, m'a évidemment conduit à travailler sur des auteurs qui n'étaient pas anarchistes, par exemple. Hein. Alors c'est le cas des jeunes hégéliens, hein, à l'époque, chez les jeunes hégéliens, aucun d'entre eux n'est anarchiste, hein, ils sont parfois démocrates ou libéraux, etc. Mais ça m'a conduit, disons, à mener des recherches en direction d'auteurs qui n'étaient pas forcément ceux que j'avais en vue initialement. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une phrase de Deleuze qui dit, hein, sortir de la philosophie par la philosophie. D'une certaine manière, moi, je suis sorti de l'anarchisme par l'anarchisme vers la philosophie. Alors ça renverse complètement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est plus une sortie de la philosophie, c'est une sortie de la politique vers la philosophie. Mais bien entendu, heureusement d'ailleurs, mais nos intérêts vitaux, on pourrait dire, hein, sont déterminants pour nos options philosophiques, et c'est heureux. Enfin, moi j'ai connu, hein, des camarades qui avaient déjà en vue, lorsqu'ils étaient en master, de faire des travaux sur, je sais pas, sur Malebranche et Berkeley ou des choses comme ça, dont par ailleurs, qui n'avaient aucun rapport avec ce qu'ils pensaient d'une manière générale de la manière dont ils devaient conduire leur existence. Je trouve ça très triste, quoi. Voilà, je trouve ça extrêmement triste, mais ça fait partie, disons, de la professionnalisation peut-être du métier de philosophe que d'aboutir à ça, mais je trouve ça assez triste.
Et donc vous avez choisi en particulier d'écrire sur Bakounine. Et dans le blog que vous lui consacrez, vous expliquez que cet auteur a une mauvaise réputation, qu'il est considéré comme extérieur au champ intellectuel européen. Alors comment parvient-on à faire entrer dans le champ académique un auteur anarchiste ? Est-ce qu'on ne risque pas de le trahir ou de dénaturer sa pensée en le faisant entrer dans un domaine universitaire ?
C'est peut-être deux questions différentes. Il y a la question de la mauvaise réputation d'un auteur, alors qui est liée en grande partie, pour s'agissant de Bakounine, à la mauvaise réputation de l'anarchisme en général. Alors ensuite, l'extériorité de Bakounine au champ intellectuel européen, c'est lié là cette fois aussi à une forme de russophobie aussi, qui est assez marquante chez un certain nombre d'auteurs. Alors j'avais notamment écrit un article sur la lecture que proposait Carl Schmitt de Bakounine, où très clairement ce préjugé russophobe était tout à fait net. Bakounine était considéré comme l'extérieur total par rapport à la culture européenne. Alors, un de mes soucis lorsque j'ai travaillé sur lui, ça a été de montrer qu'au contraire, parce que effectivement c'était le cas, il avait été en lien et même qu'il avait constitué à sa manière un foyer de rencontres entre les grands courants de la pensée européenne au XIXe siècle. Alors, il y a le courant jeune hegelien, mais bien entendu Marx, y compris ultérieurement, le positivisme, puisqu'il a été un grand lecteur d'Auguste Comte, les matérialistes allemands des années 1850-1860. Et donc, au contraire, la pensée théorique de Bakounine s'était intensément nourrie de ces auteurs-là. Après, est-ce qu'on risque pas de dénaturer la pensée d'un auteur. Alors, c'est effectivement un risque qui existe. En particulier, il y a quelques travaux qui sont très très bons en philosophie sur des auteurs anarchistes, mais qui en général ont bien souvent le défaut, à mon avis, de véhiculer à leurs propos ce que j'appellerais des préjugés philosophiques. C'est-à-dire de ne pas tenir compte nécessairement dans le compte-rendu qu'ils font de leur pensée, dans la restitution de la pensée de ces auteurs, du statut précisément qu'a la théorie chez ces auteurs. Donc il me semble que c'est la raison pour laquelle aussi j'avais commencé par travailler sur la distance que Bakounine avait mis entre lui et la philosophie. C'est parce qu'il me semble que c'est le préalable indispensable, avant d'aborder un auteur de ce type, que de considérer le statut qu'a la théorie chez lui. Le premier travail en philosophie, c'est de montrer que précisément cet auteur n'est pas philosophe et qu'il a pensé lui-même le statut non philosophique de sa pensée.
Et pour rester dans les titres, votre dernier ouvrage sur Bakounine a pour sous-titre « La philosophie et son dehors ».
Ah, c'était le premier celui-là, ouais.
Et en fait, dans le cadre de l'émission qui consiste à réfléchir sur le lien de la philosophie et de la vie, comment vous êtes venu à le définir, ce dehors de la philosophie ?
Le dehors de la philosophie, c'est l'action, ouais. Voilà, c'est l'action avec tout ce que ça implique, avec ce que ça implique d'organisation, de vécu, d'agir concret, etc.
Quelle est selon vous l'entreprise philosophique la plus inutile ou nuisible aujourd'hui ? Par exemple, Deleuze disait des philosophes analytiques que s'ils l'emportaient, c'en serait fini de la philosophie. Est-ce que vous aussi, vous avez un ennemi philosophique ? Un ennemi juré ?
Alors non, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que d'une part, je ne considère pas forcément que les ennemis qui sont les plus urgents à combattre soient forcément dans le champ de la philosophie. Alors, l'autre raison aussi, qui est liée à celle-ci, c'est que pour ma part, alors, du fait notamment que j'ai travaillé sur un auteur qui est en marge du champ philosophique, mais aussi peut-être parce que moi-même je me situe un peu sur ce type de lisière, je ne me rattache pas à une école de pensée ou un courant philosophique en particulier. Donc j'ai toujours un peu de distance par rapport aux querelles de chapelle. Je considère, alors vous parliez de la phrase de Deleuze sur les philosophes analytiques, je considère que notamment en France, la querelle contre la philosophie analytique, telle qu'elle s'est manifestée notamment au moment de l'affaire Sokal, par exemple, a souvent été menée au nom de très très mauvaises raisons. Et en particulier au nom du droit à pouvoir dire un peu n'importe quoi sans s'astreindre à un minimum de rigueur argumentative. Bah, j'ai pas d'ennemis philosophiques. Il y a des choses qui m'ennuient éventuellement, ou bien entendu aussi des démarches philosophiques que je considère comme étant de l'ordre de la pure et simple légitimation de l'ordre établi. Voilà. Mais c'est à la rigueur, c'est plutôt contre l'ordre établi que j'en ai que contre des justifications qui en sont peut-être un épiphénomène, même si je considère qu'il y a aussi une lutte à mener sur ce terrain-là.
Pour finir, en guise de conseil aux jeunes philosophes qui nous écoutent, quelle est selon vous la tâche la plus urgente de la philosophie aujourd'hui ?
Alors ouais, on pourrait dire de manière provocatrice, disparaître. Non, pas du tout. En tout cas, au moins continuer à exister sous la forme de l'enseignement, à mon avis. Je pense que l'enseignement de la philosophie, c'est enseigner la philosophie, je pense qu'il a la tâche la plus urgente. Il me semble qu'il n'y a pas de bonne philosophie sans enseignement.
Merci Jean-Christophe Franco. C'était Pourquoi pas des philosophes.